Vous êtes sur RTL. RTL Midi.
Pascal Pro et Céline Landreau.
La première balle de Noah est bonne. Retour de Villander. Elle est faite. Il a gagné. Yannick a gagné. C'est Yannick Noah qui s'est jeté à genoux.
C'était le 5 juin 83. Yannick Noah devenait le premier et seul Français encore aujourd'hui à remporter le tournoi Roland-Garros chez les hommes. Rebonjour Jean-Michel Rascol.
Oui, bonjour.
Vous étiez porte d'Auteuil ce jour-là.
Derrière Fabrice Balédan, qu'on vient d'entendre d'ailleurs.
Petit chanceux que vous êtes. Et vous savez qu'il y a assez peu de chance, a priori, pour que vous reviviez un tel exploit cette année.
Oui, la probabilité est infime. Il faut dire que à l'époque, le succès de Noah était possible. Il était envisagé au début de la quinzaine. Il avait d'abord remporté deux tournois avant de se présenter porte d'Auteuil. Il faisait partie des 5 meilleurs joueurs du monde. Son tennis offensif dégageait de la force. Aujourd'hui, on se réjouit parce que le tirage au sort a désigné 4 duels franco-français au premier tour dans cette édition 2023, ce qui signifie qu'il y aura au minimum 4 joueurs tricolores au deuxième tour. Vous le constatez, on n'est pas vraiment dans la même dynamique. D'ailleurs, pour revenir à 83, on évoque souvent la finale de Noah, mais il faut aussi se souvenir qu'en demi-finale, il avait battu un autre joueur français, Christophe Roger Vasselin, qui au tour précédent avait dominé Jimmy Connors en 3-7. La terre battue était donc bien à l'époque le jardin du tennis français.
Oui, mais Roger Vasselin n'était pas un favori. À l'époque, c'était
absolument
une énorme surprise en 83. Mais cette affaire de Roland-Garros est incompréhensible. Ça fait 40 ans. Il y a eu 160 grands chelems depuis 40 ans. On n'a pas gagné un grand chelem.
Chez les garçons.
Pourquoi ? Les Espagnols, les Anglais, les Américains, les Allemands ont gagné. Pourquoi ? Et personne n'a... Il n'y a pas de réponse à cette question.
Alors, il n'y a pas de réponse, mais si on revient à Roland-Garros, il y a une génération quand même composée des Gasquet, Tsonga, mon fils Simon, qui aurait probablement mérité gagner.
Ça ne veut rien dire.
Mériter,
ils ne sont même pas allés en finale.
Ils avaient au moins le talent, ils sont allés en demi-finale.
Ils n'ont pas allé en finale,
Et sans la domination de Rafael Nadal, sans doute qu'ils auraient pu se hisser en finale.
S'ils avaient été en finale, oui, ils n'y sont pas allés.
C'est une question de génération.
Et en demi-finale, Gasquet, il a fait une demi-finale ?
Tsonga, il
a fait une demi-finale ?
Oui, Tsonga fait une demi-finale.
À Roland-Garros ?
Mon fils aussi. Oui, il y a eu des joueurs qui se sont retrouvés à la porte du très haut niveau de Roland-Garros sans pouvoir.
En plus, c'était à la porte du cours de Roland-Garros, à la porte d'une finale.
Bon, alors, de quoi parle-t-on, ma chère? Mais
pourquoi c'est si difficile, justement, aujourd'hui, Jean-Michel, pour un tennisman français de marcher dans les pas de Noah? Qu'est-ce qui explique tout ça?
Alors, on a parlé du talent, du physique, de la culture de la terre battue, qui n'est pas forcément la culture française. Les Espagnols naissent et grandissent sur la terre battue. Et puis, il y a sans doute aussi l'approche de la compétition, le côté psychologique qu'on va peut-être aborder. Voilà, ce n'est pas un mythe. Il faut être fort comme joueur de tennis et il faut être fort dans sa tête.
Vous parliez des Espagnols. Qu'est-ce qui fait qu'on est moins bon qu'eux ? On pense à Nadal, certes, qui a eu une domination écrasante sur le circuit pendant plus de 15 ans, mais il y a Alcaraz aussi. Il y a un renouvellement de génération chez eux.
Alors, justement, il y a le côté psychologique qui est peut-être pas assez prononcé chez les Français. Amélie Mauresmo en parlait ce matin au micro d'Amandine Bégaud. Les Français ont souvent été à la recherche du geste juste, du geste parfait. Tony Nadal, l'oncle de Rafael Nadal, dit les joueurs français, ils jouent très bien au tennis, mais le tennis, c'est aussi une question de compétition, d'engagement, et à ce titre, les Français ne sont pas toujours présents. Vous vous souvenez d'André Agassi ? Moi, j'avais beaucoup d'admiration pour André Agassi. Entre chaque point, il regardait sa raquette, il remettait son tamis en place. Ça ne voulait pas dire que ses cordes étaient déplacées, mais il se servait de ce mécanisme pour se resetter, c'est-à-dire ne plus se souvenir du point qui venait de se passer, de penser à l'échange qui allait venir. Et ça lui permettait surtout de ne pas péter les plombs comme le font parfois certains jeunes joueurs français sur le court.
Non, mais ils n'ont pas faim. C'est une génération qui a... C'est Gasquet, par exemple. Gasquet, c'est passionnant. Il était meilleur que Nadal.
Non, il n'était pas meilleur.
Quand il avait 11 ans, 12 ans, il battait Nadal.
Il l'a battu quelques fois, comme Nadal l'a battu aussi à cet âge-là. Il
avait surtout Gasquet,
une précocité technique qui était admirable. Et
Gasquet, qu'est-ce qui fait la différence entre un bon champion, qui était Gasquet, et puis le super champion? C'est la volonté, la détermination. Il ne l'avait pas comme Nadal.
C'est exactement ce que dit l'oncle de Rafael Nadal, Tony Nadal.
Et Nadal, après les matchs qu'il avait gagnés, il faisait un entraînement parfois. Parce qu'il n'était pas content du match qu'il venait de gagner. Ça s'est passé à Monaco.
Ça arrive souvent chez les athlètes de haut niveau qui se remettent soit à courir, soit à refaire.
Quel est le meilleur joueur français aujourd'hui ? Il est 31e à l'ATP, paraît-il ?
Oui, c'est vrai, on n'a pas de joueurs dans les 10 meilleurs. Alors, il y a un exemple assez frappant.
Non seulement dans les 10 meilleurs, mais dans 2016. Les 20 meilleurs, dans les 30 meilleurs.
Je vais vous donner un exemple.
31e, en notre 2016, meilleur joueur. C'est, le tennis, on avait les mousquetaires, c'est un sport national, le tennis. On n'est pas fichu d'avoir un champion.
En 2016, Félix Auger-Aliassime, qui est aujourd'hui numéro 10 mondial, qui est canadien, perdait en finale junior à Roland-Garros face à un Français qui s'appelle Geoffrey Blancaneau, qui est aujourd'hui 162e et qui d'ailleurs cet après-midi tente de se qualifier pour le tableau final. Ça veut dire qu'en quelques années, la progression de ces deux jeunes a complètement été inversée. Il y en a un qui est monté vers le haut niveau et l'autre qui a stagné. Ça veut bien dire qu'à un moment, on a du mal à passer à l'âge adulte dans le tennis français. Et ça, il y a un côté psychologique, on en a parlé. La fédération d'ailleurs va engager des psychologues pour justement essayer...
Ce qui est marrant, c'est qu'au foot, on était fragile et on est devenu super fort. Et effectivement, là où on recrute les footballeurs, ce n'est peut-être pas là où on recrute les tennisman, et c'est peut-être aussi une des raisons. Parce que les footballeurs, ils ont faim.
Exactement.
Ceux qui viennent des quartiers d'où ils viennent, ils ont faim. Tennisman, c'est peut-être différent.
Les tennisman, il faut avoir la pensée positive. Alors pour conclure, je vais vous donner une citation de John McEnroe, que vous avez admiré comme moi, j'imagine. « J'ai plus de talent dans mon petit doigt que Lendl dans tout son corps », si ça, c'est pas de la pensée positive. Voilà, il faut se trouver des mécanismes pour arriver à se sublimer dans les moments importants.
Jean-Michel, vous n'y êtes évidemment pour rien. Je vous taquine un peu, mais ce n'est pas vous qui êtes responsable évidemment de ces échecs.
Ah, je l'espère bien, mais je le constate comme vous.
Il est 12h50. Et on va parler culture avec Bernard Lehu. À tout de suite.
RTL Midi. Céline.